jury, RTL Le Figaro, LCI. Invité l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Bonsoir, bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette nouvelle édition du grand jury. Vous en êtes l'invité, Dominique de Villepin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous répondrez aux questions d'Yves Tréhard du Figaro et d'Éric Revel d'LCI. Vous avez fait une conférence de presse remarquée le 25 mars dernier. Vous avez annoncé la création d'un parti politique au mois de juin. Nous allons revenir sur tout ça. Vous avez dit aussi ne pas être à l'aise avec la politique du gouvernement. Avez-vous le sentiment, après les élections régionales, le résultat qui a été enregistré, que le gouvernement a tiré des enseignements justes de ce scrutin ?
Il y a eu un réaménagement technique du gouvernement, quelques annonces sur des éléments de politique en matière écologique, en particulier avec la suppression de la taxe carbone. Je ne crois pas que le message des Français était celui-là.
Quel était-il ?
Il y a une France qui souffre. Et c'est ce que je vois sur le terrain. J'étais en Seine-Saint-Denis il n'y a pas très longtemps. Il y a 6 ans, en 2004... il y avait 80 chambres louées par l'État pour mettre à la disposition de ceux qui étaient en situation d'urgence. Aujourd'hui, il y en a 1750. Sur 60% de ceux qui sollicitent un hébergement social, un logement social, eh bien, il y a 60% donc qui ont la moitié d'un SMIC. C'est dire qu'il y a une situation aujourd'hui d'inquiétude, de souffrance dans notre pays, et il n'y a pas le sentiment que la réponse est à la hauteur des enjeux. Cette situation est accrue par le sentiment de l'injustice sociale. Il y a un grand débat aujourd'hui sur quelle politique fiscale, mais au-delà de ce débat, au-delà des mesures qui sont à prendre, il y a le sentiment que les efforts ne sont pas partagés par tous, comme cela devrait être le cas. Il faut donner l'exemple dans une société si l'on veut que chacun se mobilise et fasse un effort. Et enfin, il y a une situation très difficile sur le plan de nos finances publiques, sur le plan de la préparation de l'avenir. Notre déficit, 150 milliards d'euros, notre endettement, 1500 milliards d'euros. Les Français ne se mettent pas la tête dans le sable. Ils savent qu'il va falloir régler tout ça. Et ils ne sont pas sûrs que la politique qui est suivie, que les mesures qui sont prises, sont susceptibles de répondre à ces difficultés-là.
Yves Tréhard.
Alors, il y a les mesures économiques que vous avez citées, mais il y a aussi, on a entendu beaucoup de commentaires sur le comportement, l'attitude du président de la République. Votre prédécesseur a dit qu'il manquait au sommet de l'État une éthique du respect, comme avait le président Chirac. Est-ce que c'est votre opinion ?
J'ai soigneusement évité d'aborder ces questions de style, de mode de gouvernance. Je me suis rattaché à quelque chose qui est sans doute plus objectif, ce qui est l'équilibre institutionnel de notre pays, ce qui revient au président, ce qui revient au Premier ministre, ce qui revient au Parlement, ce qui revient aux différents pouvoirs. Tout simplement parce que je pense qu'il faut éviter des attaques personnelles en ce qui concerne les hommes.
Parler du style, c'est des attaques personnelles ?
Non, c'est un constat que chacun fait. Je pense que la religion des Français, elle est faite dans ce domaine. Et si les messages n'ont pas été compris, c'est dommage. C'est vrai qu'on attend aujourd'hui des hommes politiques qu'ils adoptent une façon d'être, un respect de l'autre qui n'est pas toujours aujourd'hui au rendez-vous. Mais ça, personne ne peut l'apprendre à nos dirigeants. S'ils ne sont pas conscients eux-mêmes de ces questions-là, personne d'autre n'y peut rien. Ce qui me pose problème, c'est le déséquilibre institutionnel qui rend la politique aujourd'hui inefficace. Si on se pose la question, pourquoi avons-nous tant de réformes et si peu de résultats ? Eh bien, il y a une raison assez simple à cela. C'est que le déséquilibre des institutions, la mise en avant d'un président de la République coupé de son gouvernement et coupé de l'État, ne lui permet pas de faire appliquer ces réformes comme il le souhaiterait. Donc, tirons les leçons, et je le dis comme gaulliste, tirons les leçons et faisons en sorte de revenir à une pratique institutionnelle qui soit davantage conforme à l'esprit de notre pays.
Il y a une trop grande personnalisation du pouvoir aujourd'hui.
Ça, je l'ai dit souvent, mais plus qu'une personnalisation, un déséquilibre. Le président de la République, il a une fonction très importante. Il doit assurer un équilibre des institutions. Il doit donner une sérénité parce qu'il doit s'inscrire dans un temps long et il doit arbitrer entre des positions qui parfois paraissent très difficilement conciliables. Il doit faire une synthèse des contraires, prendre en compte des aspirations très diverses au sein de la société française. Donc il y a un arbitrage à faire. Quand le président de la République s'expose au quotidien sur toutes les affaires, comment peut-il être le garant et comment peut-il être l'arbitre ? Celui qui est amené à faire cela, c'est celui qui reste derrière, celui qui donne le sentiment de détenir la clé de la sérénité. Et au bout du compte, c'est le Premier ministre. Ce n'est pas sain.
Ça n'est pas une réflexion déterminante, celle des institutions, parce que la situation sociale, les déficits budgétaires sont des problèmes sans doute plus concrets, mais c'est une question importante des institutions. Le Premier ministre actuel, François Fillon, a théorisé, avant d'être nommé à Matignon, un partage des tâches différent avec le président de la République, en s'appuyant notamment sur ce changement important, qui est la réduction du temps du mandat présidentiel, le quinquennat, qui, expliquait François Fillon, mettait en avant presque mécaniquement le président de la République par rapport au Premier ministre. Si cette argumentation que vous avez entendue a un fondement, est-ce que vous en viendriez à regretter, puisque vous étiez à l'époque avec Jacques Chirac, en 2000, la décision d'être passé au quinquennat ?
Alors, je n'ai jamais été favorable au passage au quinquennat. J'ai toujours pensé que le septennat donnait la possibilité au président d'une plus grande respiration.
Je découvre, tiens, que vous n'étiez pas favorable au quinquennat.
Je n'étais pas favorable au quinquennat.
Vous ne l'avez pas dit, alors ?
J'étais secrétaire général de l'Élysée, Jean-Michel Apathy.
Vous l'avez peu dit, mais même après.
De mon temps, le secrétaire général de l'Élysée était un homme qui servait le président de la République.
Dommage qu'il ne vous ait pas écouté, à l'époque.
Mais c'est comme ça, nos institutions ne le permettaient pas.
Ça a changé,
malheureusement, je pense, depuis. Mais revenons au fond de votre question. Le président de la République, aujourd'hui, parce que c'est un quinquennat, s'inscrirait donc dans la précipitation, dans l'émotion et dans le spectacle de la vie politique. Cela le place en situation de prendre tous les coups. Je pense au contraire que le président de la République doit être quelqu'un qui fait la synthèse d'un certain nombre de positions qui paraissent à première vue difficilement conciliables. Et c'est pas un hasard s'il y a deux jours, Martine Aubry, dans Mediapart, a fait une réflexion sur ce temps présidentiel, s'interrogeant, est-ce que 5 ans, ce n'est pas trop court. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il nous faut concilier deux exigences différentes. La première, c'est de travailler dans le quinquennat, parce que c'est le temps de la démocratie moderne, donc un temps plus court. Le deuxième, c'est qu'il faut construire des forces politiques capables d'appuyer dans la durée un effort long. Prenons l'exemple des déficits. Si nous ne nous mettons pas d'accord pour définir un pacte républicain et lutter contre les déficits et l'endettement de la France. Aujourd'hui, nous sommes à 77% du produit intérieur brut d'endettement. C'est colossal. Il faut à peu près 12 ans. Le maximum qu'on ait fait de réduction des déficits, c'est 0,7%. Nous sommes à 7,5%. Il faut donc 12 ans pour revenir à l'équilibre. Il faudra bien, puisque c'est le temps de 3 présidences, qu'on arrive à se mettre d'accord entre gens responsables sur la scène politique pour définir un chemin qui, dans la durée, nous permette de revenir à l'équilibre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le président de la République a pour première tâche de rassembler. Et quand vous avez rappelé que j'étais mal à l'aise, c'est parce que j'ai le sentiment au quotidien que la politique politicienne, la politique qui vise à cliver entre la droite et la gauche, à jouer des oppositions entre les uns et les autres, y compris la politique d'ouverture qui s'est ramenée à bien des égards à une politique de débauchage, a conduit à empêcher ce rassemblement sur des sujets essentiels. Est-ce qu'on ne pourrait pas, droite et gauche, se mettre d'accord aujourd'hui sur une politique de sécurité intelligente. Nous avons tous fait des efforts, nous avons constaté les limites de nos politiques respectives. Aujourd'hui, il y a une synthèse possible. Est-ce que, en matière de lutte contre les déficits, on ne peut pas définir un chemin qui rassemble la droite et la gauche sur les retraites ?
Sur les retraites,
on voit bien qu'il y a un chemin possible.
Justement, sur les déficits, il y a une proposition assez claire, me semble-t-il, de Jean-François Copé, qui, à l'instar de ce que fait l'Allemagne, dit qu'il ne faut pas inscrire le niveau de déficit dans la Constitution, mais un niveau de dépense maximum de l'État dans la Constitution, ce qui en cas d'alternance évidemment, droite ou gauche, l'obligation ce serait de respecter ce principe constitutionnel. Est-ce que cette idée vous séduit ?
Alors, l'idée d'inscrire dans la Constitution ou de définir une norme contraignante me paraît bonne et je l'ai moi-même défendue. Vous allez dire, quelle que soit la norme, les Allemands ont fixé dans leur loi constitutionnelle une norme de limitation à 0,35% à partir de 2016. On voit bien qu'il y a urgence en ce qui nous concerne pour que nous nous engagions à revenir à l'équilibre. Évidemment, nous ne pouvons pas le faire seuls, ça concerne tous les Européens. Donc il faut définir une norme obligatoire, contraignante, qui pourra tracer un chemin de convergence des différentes économies. Et l'on voit bien que les problèmes se rejoignent, parce que qui dit une réduction des déficits, dit obligation de travailler dans le sens d'une gouvernance, d'un gouvernement économique qui pourra s'atteler à mieux harmoniser nos normes sociales, nos normes fiscales,
mais vous
nos décisions économiques.
Une partie de l'envolée de notre déficit est due au financement qu'il a fallu mettre en face de cette crise économique d'une dimension colossale ou pas? Vous reconnaissez que ce déficit a dérapé parce qu'il a fallu aussi mettre des moyens financiers en face de cette crise?
Oui, mais pas uniquement. Les vannes ont été ouvertes dès 2007, dès l'élection présidentielle, la crise est venue plus tard, et nous savons, puisque cela a été chiffré par Philippe Séguin, par la Cour des comptes, que c'est environ la moitié du déficit qui est dû à la crise. Donc une partie très significative de ce déficit est liée tout simplement à des décisions de politique économique qui ont été à contre-temps. Quand on décide de défiscaliser les heures supplémentaires, près de 4 milliards d'euros, est-ce que c'est utile en période de crise, alors qu'il y a des problèmes d'emploi, de décider une telle mesure? Donc il y a des mesures très coûteuses qui ont été prises au mauvais moment.
Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal d'hypocrisie là-dedans. Parce que tout à l'heure vous dites, il faudrait s'entendre au niveau européen. Il y a une règle au niveau européen, c'est de ne pas faire un déficit qui soit supérieur à 3% du PIB. Personne ne l'a jamais respecté, sauf quand le temps est parfait et clément, le temps économique.
Vous avez raison, mais il s'agit maintenant, puisque...
Donc il faut un gouvernement économique, c'est ça que vous prenez
normes,
en plus.
Toutes ces normes n'ont pas été respectées, il s'agit maintenant de revenir à une règle, et il s'agit de bâtir un chemin. Pour chaque pays, la situation est différente. La situation de la Grèce n'est pas la même que la situation de l'Espagne, du Portugal ou de la France. Donc, définissons chacun à notre rythme, mais avec une date butoir. Pour la France, je pense que ce sera de l'ordre de 12 ans. 12 ans pour revenir à l'équilibre, à supposer que nous soyons capables, à marche forcée, de nous imposer cette règle contraignante.
Donc 2013, vous n'y croyez pas?
Ça, c'est impossible. Il n'y a pas un économiste sérieux qui peut penser qu'en 2013, nous serons revenus à l'équilibre.
Ça n'est pas non plus, pour être honnête, la proposition du gouvernement en français qui dit qu'en 2013, il reviendra en dessous des 3% de déficit.
Oui,
hein.
Oui, mais même 3%, ce n'est pas possible.
La même chose, d'accord.
Une fois de plus, j'ai dirigé un gouvernement, M. Paty,
qui n'a pas non plus respecté ses promesses les promesses faites à la Commission de respect du pacte.
Au contraire, nous les avons honorées. Thierry Breton a honoré ses engagements. Si, mais vous vous trompez. Nous avons obtenu le carré magique entre 2005 et 2007, qui est la baisse des impôts, la baisse de la dette, la baisse des déficits publics et la baisse du chômage. Quand j'ai pris mes fonctions à Matignon, les déficits publics étaient de l'ordre de 56 milliards. Quand je suis parti, ils étaient de l'ordre de 36 milliards. Et nous sommes passés de 65% d'endettement à 62,5%. C'est la plus grosse baisse en matière de dette et en matière de déficit public que nous ayons obtenu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire comme règle 0,7% de réduction des déficits sur un an. On n'a pas fait mieux. Donc en supposant qu'on puisse appliquer dans la durée sur 10 ans cette baisse du déficit, vous voyez bien qu'on est très loin de l'équilibre, ou même des 3% en 2013.
Comment concilier ce que vous avez dit tout à l'heure, justement d'ailleurs, d'une crise sociale qui réduit beaucoup de gens à la difficulté, voire à la pauvreté, et la nécessité d'équilibrer les finances publiques?
Eh bien, c'est la question que les Français se posent. Les Français sont en avance sur les gouvernants dans la conscience qu'ils ont que nous sommes à la fin de quelque chose. Il faut aujourd'hui reposer les bases de notre modèle économique. Et malheureusement, on veut opposer aujourd'hui la sphère publique, l'État pour faire simple, et le secteur privé. D'un côté, il y a un secteur public, il faut tailler les branches, réduire les effectifs, baisser les crédits. Et de l'autre côté, un secteur public dont on veut croire qu'il va apporter la solution à tous les problèmes.
Le secteur privé, vous voulez dire?
Le secteur privé, pardon. Je crois qu'il faut définir aujourd'hui trois sphères. Il y a bien la sphère de l'État, la sphère publique, dont on sous-estime très souvent à quel point elle est indispensable pour la qualité de nos infrastructures, pour la qualité de notre santé, de notre éducation, indispensable pour accompagner la croissance. Elle est garante de notre progrès, garante de notre attractivité et garante de notre avenir. Donc, n'imaginons pas que l'État, c'est purement et simplement du négatif et du déficit. Deuxièmement, il y a une sphère privée. Et là, effectivement, on a besoin de faire un gros effort d'imagination. Ceux qui créent de l'emploi aujourd'hui, ceux qui peuvent apporter le surcroît de croissance dont nous avons besoin, ce sont les PME. Quand j'étais Premier ministre, j'ai parié sur les PME et nous avons réussi à créer 600 000 emplois. Les PME doivent faire l'objet de beaucoup plus d'attention. Et il y a toute une série de pistes qui nous permettraient d'avancer. Je prends un exemple. Dans le domaine de l'assurance vie, l'épargne des Français, on constate qu'il y a 1300, 1400 milliards d'euros disponibles. Faisons en sorte que cette assurance-vie puisse être, pour une part, utilisée par les petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire passons d'une économie de la dette à une économie des fonds propres qui donnera les moyens à nos PME d'entreprendre. C'est une réflexion qui a été engagée. C'est une réflexion qui a été engagée par le gouvernement. C'est une proposition qui a été faite par les syndicats. Un rapport doit être remis dans les prochaines semaines. Il y a là, à mon sens,
une piste déjà.
Pas à l'échelle. Ça existe pour
sur l'impôt sur la fortune.
Voilà, sur l'impôt sur la fortune. Mais là nous sommes
l'investissement,
sur
l'investissement
dans les PME.
Nous sommes dans un tout autre domaine. 1300, 1400 milliards. Si vous mettez 10% de ces 1300, 1400 milliards, ça fait 130 à 140 milliards, c'est-à-dire presque l'équivalent du déficit public annuel de la France.
Mais pour le faire, il faut mettre une taxe sur l'assurance vie des Français. Ce que vous êtes en train de nous dire.
Est-ce que les garanties qui sont données à l'assurance vie ne valent pas en contrepartie de pouvoir dynamiser notre économie ? Une fois de plus, c'est une des réflexions que mène le gouvernement. Je pense que c'est une réflexion utile. Les PME, nous voyons bien qu'elles ont besoin d'être encadrées et accompagnées. Qu'on travaille pour faire en sorte que les PME, avec les grandes entreprises, avec le secteur bancaire, puissent ne pas être condamnés à rester sur notre territoire. Et comme les entreprises allemandes à gagner à l'exportation, il y a là toute une réflexion qu'il
vous
faut faire.
Vous avez défendu la fonction publique, M. de Villepin, à l'instant, on l'a entendu. Vous avez rappelé l'importance de la sphère étatique sur la réforme de non-renouvellement d'un fonctionnaire sur deux que le président Sarkozy a renouvelé. Vous êtes totalement opposé à cette idée ou vous considérez qu'il faut la regarder de près ?
Je ne suis pas opposé à l'idée de reformater l'émission de la fonction publique et de diminuer les coûts de cette fonction publique, à condition de le faire de façon discriminée. Il ne s'agit pas de le faire à l'aveugle. Ce qui me gêne dans l'approche d'un fonctionnaire sur deux, c'est qu'elle méconnaît beaucoup des réalités de certains ministères et qu'elle ne correspond pas aux besoins de notre État. Nous avons besoin ici de davantage d'infirmières, là de davantage de policiers. Cette règle abrupte est une règle comptable qui, à mon sens, conduit à beaucoup de désorganisation et de dysfonctionnement. Je prends l'exemple dans les banlieues. Même si on a le sentiment que le nombre d'enseignants qui a été diminué est restreint, la disparition dans tel et tel établissement d'un certain nombre d'enseignants conduit à une désorganisation qui pèse très lourd dans certains quartiers et dans certains lycées. Donc cette règle, elle a été appliquée d'une façon qui n'a pas permis à l'État de prendre confiance en lui et de s'adapter à une situation nouvelle. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est une très large démobilisation que je regrette.
Si on veut réduire les déficits publics, il faudra réduire la dépense publique. Hein.
Mais
il
y a deux façons de le faire.
Tous les responsables politiques, y compris vous, me semble-t-il, ce soir évitent. C'est bien celle-là.
Non, il y a deux façons de le faire.
Comment réduire la dépense
publique ? Il y a deux façons de le faire. La première, c'est effectivement de réduire les déficits et la dépense publique. C'est ce que nous avions engagé avec Thierry Breton et Jean-François Copé. C'est une des premières options. Nous l'avons fait avec Jean-François Copé et Thierry Breton. Et nous l'avons fait à travers des audits. C'est-à-dire, on examine les fonctions de l'État et on voit comment on peut redessiner ces fonctions. Ce n'est pas du tout le système de la révision générale des politiques publiques qui ne révise pas, mais qui coupe à la hache dans un certain nombre de budgets. Troisième sphère, parce que je veux en terminer par celle-ci, à côté de l'État, à côté de la sphère privée, il y a un pôle qui se développe dans notre pays considérablement et dont on ne parle jamais, qui est la sphère solidaire, le secteur solidaire. Les entreprises sociales, les associations, les fondations, qui représentent 12% du produit intérieur brut et 10% des emplois. Il y a là, à mon sens, un gisement tout à fait considérable d'énergie et qui, aujourd'hui, manque de bras et manque d'argent. Si nous voulons que la France reste la France dans la mondialisation, alors que l'on voit bien que le basculement de la puissance vers les pays émergents est en train de changer la donne profondément, eh bien nous devons développer un modèle économique qui soit conforme à notre génie propre. Et ce secteur de la solidarité mérite d'être encouragé. Le service civique est une première étape qui est aujourd'hui développée. Je pense que nous gagnerions.
C'est aussi des gens publics aussi.
C'est aussi le problème du financement qui est posé. Oui.
À travers une indemnité, je pense que nous aurions la possibilité d'utiliser, et ça ne coûte rien, l'esprit de solidarité de nos concitoyens, c'est-à-dire tous ceux qui sont prêts à s'engager. Des jeunes, des chômeurs, des retraités, qui sont prêts à s'engager pour apporter leur concours, offrir un encadrement ponctuel à temps partiel ou à temps plein. Et je pense que l'idée d'un service universel solidaire serait susceptible d'utiliser beaucoup d'énergie de nos compatriotes dans ce secteur-là. Ce sont des idées qui progressent, on le voit bien à l'étranger, le microcrédit et Mohamed Younous l'ont montré, des grandes entreprises sociales comme SOS, Ashoka, des associations, montrent le chemin. De ce point de vue-là, il nous faut faire preuve preuve d'imagination.
Pouvez-vous nous dire, Dominique de Villepin, pourquoi vous avez ressenti le besoin, quand vous étiez Premier ministre, de créer un bouclier fiscal ?
L'idée du bouclier fiscal, c'est l'idée de garantir à notre économie la compétitivité indispensable. Ce bouclier fiscal, nous l'avons donc voulu efficace, mais aussi équitable. Et j'ai donc fixé, avec Thierry Breton et Jean-François Copé, un bouclier fiscal à 60%, une imposition à 60%. Sans intégrer dans ce bouclier fiscal la CSG et la CRDS, qui représentent environ 12 points, 12%. En 2007, l'arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe, du nouveau gouvernement, a conduit à un bouclier fiscal qui est passé de 60% à 50%, mais en incluant la CSG, la CRDS, ce qui veut dire un bouclier fiscal à 38%. Vous voyez donc qu'entre les 60% que nous garantissions, et qui était une garantie pour beaucoup d'acteurs économiques, une garantie importante, voire même peut-être suffisante, et le passage à 38%, il y a un monde.
Donc vous n'êtes pas contre le bouclier fiscal, contre le principe du bouclier fiscal, vous êtes contre ses modalités
aujourd'hui. Je suis pour le bouclier fiscal dans la mesure où il permet d'apporter une garantie, éviter une évasion fiscale vers l'étranger, mais encore faut-il qu'elle soit juste, cette décision.
Ce qu'on a du mal à comprendre, M. de Villepin, c'est que vous créez donc ce bouclier fiscal à 60%, et l'argument massue, c'est celui de la compétitivité des entreprises. Vous venez de le rappeler. Si on raisonne normalement, on devrait se dire, plus le taux est bas, plus la compétitivité des entreprises est assurée. Donc vous devriez au contraire...
Monsieur Revel, dans ce cas-là, on pourrait le porter à 0%, l'imposition. Non, mais si on poursuit votre logique, c'est dire à quel point ce raisonnement...
Ce raisonnement doit
prendre en compte un environnement économique. Et dans l'environnement économique, Monsieur Revel, puisque vous connaissez bien l'économie, dans l'environnement économique, il y a une donnée incontournable. Ce sont les circonstances. Nous avons traversé une crise extrêmement dure, qui a frappé beaucoup de nos concitoyens. Et l'exigence de justice, et je le dis depuis le premier jour de l'arrivée de la nouvelle équipe, depuis 2007, c'était le signal qu'il fallait donner aux Français dès le départ pour les mobiliser. Or, ce quinquennat a démarré par un paquet fiscal, qui est apparu, en ce qui concerne les successions, le bouclier fiscal comme un cadeau fait aux riches. Le bouclier fiscal à 60% dans la crise me paraît très suffisant. Et c'est pour cela que j'ai proposé de le suspendre. J'ai proposé par ailleurs que dans le signal qui devait être donné à tous les Français, puisqu'il faut se rassembler dans cette période, nous augmentions la dernière tranche de l'impôt sur le revenu de 40 à 45% et prévoir également
une surcote pour les grandes sociétés.
Oui, mais quel est le sens de cela ? Quelle est la différence entre les grandes sociétés ?
Là, vous ne souciez plus de la compétitivité de nos grandes entreprises.
Si. Mais quelle est la différence entre les grandes sociétés et les PME ? C'est que l'impôt sur les sociétés de 33%, les grandes sociétés, compte tenu de leur capacité à gérer au mieux leurs impôts, eh bien, elles ne payent pas 33%. Dans la pratique, le montant de l'imposition sur les grandes sociétés est de l'ordre de 22%, parce qu'elles utilisent tous les ressorts des niches fiscales. Donc, si vous augmentez, si vous faites une surcote de 5 à 10%, vous ramenez en réalité l'impôt sur les très grandes sociétés de 22 à 30, 32, 33%. Donc, vous voyez bien que il y a une marge, et il y a une marge, je le dis bien, pour une période temporaire. Il s'agit de montrer un signal à l'ensemble des Français que l'effort qui va être fait va être un effort juste. Nous savons tous, même si les promesses sont faites aujourd'hui, qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, que la situation actuelle n'est pas tenable. Et si la majorité réfléchit aujourd'hui à l'idée de sortir la CSG et la CRDS du bouclier fiscal, c'est parce que on ne veut pas se retrouver au sein de la majorité dans une situation qui nous placerait devant des augmentations d'impôts qui ne concerneraient pas les plus riches, qui seraient dans le cadre de ce bouclier fiscal. Donc on voit bien que cette exigence de justice, elle est incontournable si l'on veut repartir d'un meilleur pied, si l'on veut rassembler les Français. Et aujourd'hui, je pense que c'est le premier impératif.
Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudrait en France engager un grand soir fiscal ? 50% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu. Il y a l'impôt sur la fortune qui est très aussi contesté par ceux qui le payent d'abord. Mais on a l'impression qu'en France, la fiscalité répond à des principes qui sont plus cohérents. Et que justement, la cohésion sociale dépend aussi du paysage fiscal de ce pays.
Alors ce qui est intéressant, c'est que beaucoup des réflexions qui sont faites à droite et à gauche convergent aujourd'hui. C'est un élément d'espoir pour arriver à plus de justice en matière fiscale et moins de complexité. C'est les deux grands travers, les deux grands reproches qu'on peut adresser aujourd'hui à notre système fiscal. Quand j'entends François Hollande, Pierre Moscovici qui va présenter le rapport du Parti Socialiste, Jean-François Copé, on voit bien qu'il y a des propositions qui sont les mêmes dans certains cas. L'idée de mettre...
Jean-François Copé, non. Il dit pas il faut supprimer l'impôt sur
le revenu. Non, mais quand il dit il faut réunir l'impôt sur le revenu et la CSG, c'est une réforme importante qui permet de rétablir... Oui, mais qui permet de rétablir la progressivité de l'impôt.
Il dit qu'il faut garder le bouclier fiscal. Donc, vous ne pouvez pas mêler tout le monde. Votre souci depuis le début de l'émission est assez remarquable de dire qu'il faut réunir droite et gauche, mais encore faut-il ne pas le faire abusivement. Parce que là,
en l'occurrence, je le faisais sur un point précis.
Copé et Moscovici, vous ne les mettez pas d'accord sur la fiscalité.
Je le faisais sur un point précis qui rassemble, et en l'occurrence, François Hollande, qui dans un livre a fait cette proposition, ainsi que la proposition du Parti Socialiste et les déclarations de Jean-François Copé qui réunit son association dans les prochains jours et qui se retrouve sur ce point. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de réflexe abusif, M. Paty, je suis trop sourcilleux pour ça.
Est-ce que je peux vous soumettre une réflexion d'Alain Lambert, qui a été votre ministre du budget entre 2005 et 2007. Il dit « Nicolas Sarkozy n'est pas en mesure de faire gagner les idées de l'UMP en 2012 et je propose donc qu'Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin et François Fillon se rencontrent pour envisager toutes les éventualités dans l'intérêt supérieur du pays ». Est-ce que vous pouvez répondre positivement à cet appel, Dominique de Villepin ?
Je pense que poser aujourd'hui la question de l'élection présidentielle est tout à fait prématuré.
Tout le monde
je ne peux pas, oui, peut-être, mais je ne peux pas vous dire à la fois rassemblons-nous et réglons le problème de qui sera le candidat au sein de la majorité à l'élection présidentielle. Je crois que ce n'est pas la préoccupation des Français. Quand on fait de la politique, la première des choses, c'est de répondre aux préoccupations des Français. Que l'ensemble de ces personnalités ait intérêt à se concerter, réfléchir sur la meilleure façon de consacrer les deux prochaines années, ça me paraît fort utile. Et c'est vrai que de ce point de vue, nous manquons au sein de la majorité de moyens, d'outils qui permettraient de faire des propositions, de fédérer des initiatives. Je crois que de ce point de vue-là, il y a un manque.
Alors justement, quand on vous écoute... Excusez-moi, sur la phrase d'Alain Lambert, Nicolas Sarkozy n'est pas en situation de faire gagner nos idées en 2012. Que dites-vous,
Monsieur Petit, le spécialiste de la vie politique, des sondages, c'est vous, c'est ce que disent aujourd'hui les sondages. Je n'en tire aucune conclusion
Vous êtes l'acteur, vous êtes pas le spécialiste.
Je sais trop qu'en politique, les choses changent. Aujourd'hui, ce n'est effectivement pas le sentiment des Français, ça ne répond pas.
Ça ne vous paraît pas définitif.
Mais vous savez, les choses changent beaucoup en politique, les circonstances aussi. Ce qui me paraît vraisemblable, c'est que si la politique qui est menée n'est pas changée, nous n'aurons pas les résultats. Il faudra donc bien que l'équipe qui est aujourd'hui en place rende compte devant les Français.
Dominique, j'aimerais que vous nous expliquiez où vous vous situez aujourd'hui sur l'échiquier politique français. Parce que quand on vous écoute...
Ça, c'est une bonne question. Peut-être qu'on va la faire. Alors, si on change de sujet comme ça, on va peut-être la faire après la pause. Si vous en êtes d'accord.
Oui, parce que j'ai deux arguments forts, me semble-t-il.
J'écouterai avec intérêt.
Oui, Yves.
Une toute petite question, alors.
Non, parce que là, c'est fini. Là.
D'accord.
Voilà. Donc, écoutez les informations de 19h, oui, c'est ça. Et puis plein de questions après à suivre. À tout de suite.
Des questions difficiles.
Ah oui.
Suite du grand jury RTL Figaro LCI. Invité l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. Le débat est dirigé par Jean-Michel Apathy.
Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec vous, Dominique de Villepin. Éric Revel vous demande où vous êtes.
Oui, où est-ce que vous vous situez aujourd'hui sur l'échiquier politique? Parce qu'on vous a écouté présenter une sorte de programme économique qui est plutôt social-démocrate. Et à l'époque où vous étiez Premier ministre, le CPE, qui avait été dénoncé par les syndicats comme un sous-SMIC en direction des jeunes, lui était plutôt d'inspiration libérale économique. Alors vous êtes passé du libéralisme économique pur et dur à une social-démocratie tempérée.
Monsieur Revel, grâce à Dieu, on peut dire ça le jour de Pâques, vous avez deux yeux. Un œil droit et un œil gauche. Vous avez deux mains. Grâce à vos deux yeux, vous voyez mieux le relief des choses. Et grâce à vos deux mains, vous pouvez vous assurer une bonne prise quand vous saisissez quelque chose. Toute la politique, c'est un exercice de conciliation. Et chaque fois qu'on veut privilégier un domaine au mépris de l'autre, on crée un certain nombre de réactions, de déstabilisation dont on porte les conséquences. Quand j'étais Premier ministre, entre 2005 et 2007, je prendrai deux exemples, l'emploi et la sécurité, j'ai cherché à concilier ces deux inspirations. En matière de sécurité, la droite ne voulait pas entendre parler de la police de proximité. Et j'ai cherché à concilier l'approche moderniste de la sécurité.
Oui,
mais j'y viens, parce que c'est pareil.
D'accord.
J'ai cherché à concilier une aspiration moderniste, police scientifique, vidéosurveillance, tous les moyens qui peuvent être utilisés dans le respect des libertés et en évitant d'en faire le nec plus ultra, la solution idéale, ce qui aurait des conséquences pour notre vie quotidienne. Et en même temps, j'ai voulu mettre en place une police de tranquillité publique, une police du quotidien qui tire les leçons de l'échec de la police de proximité mise en place par les socialistes en déployant des forces dans les heures où, dans les quartiers en particulier, on avait véritablement besoin d'une présence. Pourquoi ? Parce qu'au quotidien, si la police connaît ceux qu'elle est censée protéger, eh bien, on évite beaucoup de malentendus, on évite beaucoup de quiproquos. De la même façon, en matière d'emploi, j'ai voulu cumuler les emplois aidés dont nous avions besoin pour répondre à des situations difficiles et en même temps des emplois marchands. Et c'est comme ça que le contrat Nouvelle Embauche, parfaitement adapté aux petites et moyennes entreprises, a pu apporter une bouffée d'oxygène à notre économie. J'ai fait et conçu le contrat première embauche qui a suscité le malentendu qu'on sait. C'est un problème de méthode. Il aurait fallu l'ajuster encore davantage. Faute de temps, ce malentendu s'est aggravé jusqu'au retrait de ce dispositif. Mais je reste convaincu qu'il faut en permanence s'efforcer de faire la synthèse. Il y a bien d'un côté la liberté, l'initiative, ceux qui veulent entreprendre. De l'autre côté, eh bien, il y a des garanties de justice, de solidarité à donner si l'on veut entraîner chacun. Et ce qui m'inquiète dans la France d'aujourd'hui, c'est qu'on voit les riches être de plus en plus riches et on voit les pauvres être de plus en plus pauvres. Et on voit entre les deux un écart se creuser. C'est pour cela que j'ai proposé, il y a quelques jours, une charte des salaires dans les entreprises. Ça peut paraître du dirigisme économique, mais c'est tout simplement du bon sens. Comment voulez-vous, je voyais les résultats d'une grande banque française où l'un des chefs de division trader avait gagné un bonus de 10 millions d'euros et sa secrétaire 800 euros. Vous savez, c'est l'écart entre les salaires qui inquiète. Donc une charte des salaires qui éviterait des écarts trop importants entre les 10% les plus riches et les 10% les moins bien payés serait susceptible de recréer.
Donc aujourd'hui, vos deux yeux et vos deux mains, vous accrochez à une case plutôt centre-gauche.
Aujourd'hui, je suis fidèle à l'inspiration qui a toujours été la mienne. Qu'est-ce que le gaullisme ? Le gaullisme, c'est le rassemblement des Français à travers une exigence de liberté et en même temps le souci de la solidarité. Et c'est pour ça que le maître mot de la conférence de presse, vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur Apathy, que j'ai fait, c'est République solidaire. République, c'est quoi ? Respect, défense de nos principes. Et solidaire, c'est cette exigence qui veut que nous avancions tous ensemble en n'oubliant personne.
Mais un œil droit, un œil gauche, qui regarde bien, ça va au centre. Donc vous voulez occuper la place du centre, comme
vous. Alors, monsieur Tréhard, vous êtes un bon.
Sait que le centre, en plus, en ce moment.
Vous êtes un bon géographe.
Se cherche.
Vous êtes un bon géographe, mais visiblement, vous n'aimez pas la poésie.
Ah, j'adore la poésie.
La poésie, Arthur Rimbaud, grand poète français, nous l'a dit, il faut être en avant. Et moi, je veux être en avant de la majorité qui, aujourd'hui, patine, souffre de ne pas arriver à concilier ses contraires. Je veux ouvrir des chemins. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de nouer des consensus dans des domaines qui sont très importants pour l'avenir de la France. Regardez notre politique étrangère. Est-ce qu'on peut être satisfait d'être rentré dans le temps et de ne plus entendre la voix de la France sur des crises aussi importantes que la crise israélo-arabe ou la crise de l'Afghanistan ? Est-ce qu'on peut être satisfait d'avoir une Europe complètement en panne, alors même que nous le savons ? Si cette Europe ne se prend pas en main, si elle n'est pas capable de définir les voies d'un gouvernement économique, si elle n'est pas capable de mieux protéger nos concitoyens, aujourd'hui nous avons un problème de protection. Comment allons-nous faire face à des pays émergents qui font des produits beaucoup moins chers que les nôtres, avec des normes sociales et des normes environnementales beaucoup plus basses ? De ce point de vue-là, la taxe carbone est revenu à une situation de bon sens. À l'évidence, c'est à l'échelle de l'Europe qu'il faut prévoir une norme qui protégera les Français ainsi que les Européens et nous permettra de nous adapter.
On tourne autour de votre situation. Alors on va essayer de faire plus simple. Parce que
je suis ravi de l'intérêt que vous me portez.
En politique, on peut être à droite ou à gauche, ou ni à droite ni à gauche. On peut être devant ou on peut être derrière, vous l'avez expliqué. Mais en démocratie, il y a une chose qui est simple. Est-ce que vous êtes aujourd'hui, Dominique de Villepin, dans la majorité ou dans l'opposition ?
La majorité est ma famille d'origine. Je suis issu de la majorité.
Et
je n'entends pas brouiller les cartes.
Vous êtes encore aujourd'hui dans la majorité ?
J'appartiens, puisque c'est la classification française, à une droite républicaine et solidaire. Et je ne renie rien de mon engagement.
Je voudrais préciser mon idée. Vous avez annoncé le lancement d'un parti politique. Des députés, certains sont dans le public de ce grand jury, vont adhérer à votre parti politique. ils pourront aussi être membres de l'UMP, enfin j'imagine, mais c'est pas le sens de ma question. Est-ce que les députés qui se reconnaissent dans votre action, qui adhèrent au parti que vous allez créer, vous leur demanderez de manifester leur solidarité dans leur vote avec le gouvernement, par exemple au moment du budget, ou vous leur demanderez à l'inverse de prendre des distances avec le gouvernement ?
La liberté, pour un parlementaire, c'est une exigence républicaine fondamentale. Reprenez les grands débats après la Révolution française. Le député est engagé par son vote à travers ses propres convictions.
Tout de même, si quelqu'un...
Et c'est pour cela que j'ai dit très clairement que ce mouvement serait libre et indépendant.
Si quelqu'un ne soutient
pas contre la majorité, il est libre et indépendant. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que nous nous déterminerons en fonction de l'intérêt général. Voilà un mot qu'on n'entend plus beaucoup sur la scène politique française.
Parce qu'il ne veut pas dire grand-chose non plus.
Eh bien si, en l'occurrence il veut dire quelque chose. Il veut dire qu'on se donne du mal pour faire des propositions qui puissent prendre en compte des situations différentes. Et ça veut dire que je ne serai lié et que ceux qui sont avec moi ne seront liés par personne. Pas de contribution de l'État à ce mouvement. Pas de soutien d'un parti politique, fût-ce l'UMP. Nous serons libres et indépendants, financièrement, avec des bénévoles, des gens qui sont là pour leurs idées et parce qu'ils y croient, des gens qui veulent changer à travers la politique une façon de faire de la politique. Je prends un exemple, je suis toujours frappé de voir à quel point la classe politique est peu capable de se renouveler. Il faudra mener une réflexion très forte d'ici les prochaines échéances sur le cumul des mandats. Comment faire de la place à tous ceux qui aujourd'hui souhaitent prendre leurs responsabilités dans les quartiers, dans les campagnes, et qui voient les portes fermées. De ce point de vue-là, il faut faire bouger les lignes. Et le grand avantage d'un jeune mouvement, c'est qu'on peut faire de la place à tous ceux qui le souhaitent. On peut faire appel à toutes les bonnes volontés, et une fois de plus, sans fil à la patte.
Et donc on pourra à la fois être à l'UMP et dans votre parti ?
Et moi, je n'ai aucune raison de fermer la porte au nez de quiconque.
Un parti qui est clairement...
De rassemblement, M. Tréard.
Quand on va au siège à vos bureaux, il y a un interphone. Il y a marqué « Villepin 2012 ».
Bravo, ben vous me l'apprenez.
C'est signé.
Ce qui est certain, c'est que c'est le combat... c'est le combat politique des prochaines années. C'est celui qui mobilisera les Français.
L'élection de 2012.
L'élection présidentielle de 2012, c'est ce qui permettra d'inventer quelque chose de neuf pour répondre à nos compatriotes.
Qu'est-ce que ça veut dire Villepin 2012 alors ?
Non,
quel sens il faut donner
Il faudrait demander à Brigitte Girardin, qui est dans le public, les raisons de ce choix. Ce n'est pas mon choix.
Elle l'a pas dit.
Ce n'est pas mon choix. Mais ce qui est clair, c'est que c'est l'échéance et c'est dans l'esprit de l'échéance de 2012 que nous souhaitons faire bouger les lignes, apporter des idées, modifier des comportements et apporter surtout des réponses aux Français, là où nous avons le sentiment que ce n'est pas le cas. En 1995, Jacques Chirac a gagné parce qu'il a compris la situation de la France. En 2002, nous n'avons pas nié les problèmes qui se posaient, et en particulier en matière de sécurité. Quand on ne voit pas le sentiment dominant des Français, eh bien, on ne peut pas gagner.
Je reviens un peu à ma question précédente. Il est difficile d'imaginer, parce que la politique est assez complexe, peut-être pour ça que quelquefois les gens s'abstiennent, il est assez difficile d'imaginer que des parlementaires vous rejoignent, vous soutiennent, partagent ce que vous dites, qui est très critique vis-à-vis du gouvernement. Vous en critiquez à peu près tous les aspects de la politique menée.
Non, pas tous, mais...
Beaucoup.
Mais un certain nombre.
Il est difficile d'imaginer qu'ils puissent continuer à apporter leur soutien au gouvernement s'ils soutiennent votre démarche. C'est quand je dis c'est difficile, c'est un euphémisme.
Certains se sont abstenus sur un certain nombre de votes importants. Je pense à la réforme institutionnelle. Je crois à la liberté. Je crois que chacun peut exprimer cette liberté de choix. Georges Tron, qui est un ami, qu'il était et qui le reste, a fait un choix. Aller au gouvernement, ce choix n'est pas le mien. Mais je respecte son choix.
Vous savez, la cohérence. C'est la cohérence
bien sûr,
de ceux qui vous soutiennent.
Lorsque vous définissez un programme de gouvernement et lorsque vous êtes mandaté pour l'appliquer. Mais je ne crois pas que la politique puisse se faire avec du sectarisme, avec de la vindicte et avec de l'agressivité. Donc je crois que rassembler, c'est bien accueillir tous ceux qui souhaitent à un moment donné faire un bout de chemin avec vous.
Alors vous lancerez ce mouvement le 19 juin prochain et c'est là d'ailleurs que vous révélerez le nom de ce mouvement.
Que vous le fassiez ce soir,
peut-être,
si vous voulez.
Non, mais si vous avez des idées, des suggestions,
Vous n'avez pas trouvé.
C'est pas simple.
Bon, c'est pas
mais ma question vous n'avez pas trouvé.
Non, nous cherchons. Nous sollicitons toutes les bonnes volontés.
Un sondage, c'est un sondage, mais celui qui porte sur l'intérêt de votre démarche pour la création de ce mouvement montre qu'il y a très peu de Français, visiblement, qui s'intéressent à ce mouvement.
J'ai bien lu le sondage, monsieur Revel.
Il y a quand même pas beaucoup de gens semblent.
Dites-le.
Ah, bah, j'ai plus le chiffre en tête.
Mais visiblement,
il n'y a pas beaucoup de gens qui sont.
Il y a beaucoup de grands partis politiques qui aimeraient avoir fait, au premier ou au deuxième tour de l'élection régionale, le score que M. Appati va nous donner. Croyez-moi,
25% d'intéressés.
Il est de 29%.
D'intéressés.
29% si ma mémoire est bonne.
Et 70% qui ne sont pas intéressés.
Mais pour 70% qui ne sont pas intéressés. Nous parlons d'un parti qui n'existe pas.
Oui. Le mouvement de Dominique de Villepin n'intéresse pas 69% des Français.
Voilà, j'avais 70%
selon le sondage LH2.
Attendez, ça c'est le titre.
C'est le titre.
La question n'est pas là. Il y a 29% de Français qui se disent intéressés pour un mouvement qui n'existe pas. C'est dire qu'il y a un besoin. Mais vous savez, la politique, c'est d'aller au-devant de ce besoin et de fortifier le désir dès lors qu'il est amorcé.
Donc j'ai fait une mauvaise lecture de son sondage.
Mais vous faites une lecture. Si on avait fait le même sondage sur l'UMP, à votre avis, quel résultat on aurait eu? Mais bonne question, comme dit l'autre. Je pense que ça aurait été inférieur.
28% des sondés se disent intéressés par votre mouvement, c'est-à-dire 23% un peu. Et 5% beaucoup. Bon, c'est quand même pas un succès extraordinaire.
Écoutez, 5% qui seraient prêts à s'engager dans un mouvement politique, c'est beaucoup plus que tous les grands partis politiques français réunis.
Vous avez combien d'adhérents actuellement?
Nous sommes un peu plus de 15 000 entre les adhérents au club, clubvillepin.fr et le réseau social. Lui aussi rassemble un assez grand nombre d'adhérents.
Je voudrais faire un petit peu de... Mais ce n'est pas vraiment de la fiction.
Alors je donne le nom quand même, villepin.net.
D'accord.
Pour ce qui est du réseau social. Nous avons été le premier mouvement à lancer un réseau social. Je tiens à être totalement transparent. Tout cela pour 20 000 euros. Je crois, par comparaison, que le site de l'UMP a coûté 500 000 euros. Je pense qu'on peut faire avec peu d'argent et beaucoup de bonne volonté de grandes choses.
Par exemple. Imaginons que vous soyez...
À mon avis, l'interphone va être vite modifié. Mais enfin, on suivra ça. Allez-y.
Monsieur de Villepin, il y a des voix à l'intérieur de l'UMP.
Je vois Brigitte Girardin qui dit c'est faux.
Ils l'ont changé depuis tout à l'heure.
Mais que je sache, c'est faux.
Il y a des voix à l'intérieur de l'UMP qui disent il faut des primaires en vue des présidentielles. On sait votre position.
La politique politicienne qui passionne les Français, comme chacun sait.
Mais c'est important.
Non, c'est important pour vous.
On connaît votre position sur l'élection présidentielle qui est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Voilà. Si d'aventure, vous aviez l'ambition d'aller à cette élection présidentielle, est-ce que vous soumettriez à des primaires?
Vous connaissez la réponse, M. Tréard. Comment voulez-vous qu'un gaulliste puisse participer à de telles procédures? C'est totalement contraire à la tradition politique qui est la mienne. Quand on a des convictions et qu'on estime qu'on est bien placé pour les défendre, on les défend. On ne passe pas à travers une moulinette pour rentrer dans des procédures complexes. Ce n'est pas mon esprit et ce n'est pas l'esprit du gaullisme.
C'est un peu mort, le gaullisme.
Vous savez, le gaullisme, je ne crois pas.
Le gaullisme a été porté par le général de Gaulle parce qu'il avait fait le 10 juin.
Je vous invite à lire la préface faite par Régis Debray au discours du général de Gaulle qui vient de sortir. Et vous verrez à quel point l'actualité du gaullisme dans une France qui souffre, dans une France divisée, dans une France qui a le sentiment de l'injustice, est aujourd'hui d'actualité.
Le gaullisme, c'est le général de Gaulle qui l'a incarné parce qu'il a fait le 10 juin 40. Ça voulait dire quelque chose. Mais... c'est un peu fini, quoi, tout ça.
Il y aura le 19 juin 2010.
Le gaullisme, c'est une exigence de rassemblement.
C'est un peu trop facile
et de...
comme référence. Elle ne nous sert à rien aujourd'hui.
Mais si.
Non.
Prenez la politique de l'emploi, elle vous sert à rien d'essayer de concilier ce qui marche à droite et ce qui marche à gauche. Ça sert à rien. Monsieur Appati.
Politique de l'emploi, elle passe par la compétitivité, la création d'emplois.
On ne peut pas avoir tous les 5 ans la moitié des Français qui se voient satisfaits à travers une élection présidentielle et qui diminue au fur et à mesure des années. Au bout du chemin, ce sera peut-être 20%. Les 5 années suivantes, selon une vieille logique d'alternance, avoir l'autre moitié des Français. Il y a bien un moment où il faut définir un intérêt général dans des circonstances données. On parlait tout à l'heure de la politique des déficits. Je ne crois pas que cette politique des déficits, elle doit être faite pour la moitié des Français. Sans quoi nous sommes en permanence dans la tension, dans la suspicion sur le plan social et au bout du compte dans la justice. Donc, posons-nous les questions sur la politique étrangère, sur la politique européenne, sur la politique économique, de ce qui peut à un moment donné nous rassembler et nous ferons œuvre utile. Je crois vraiment que c'est aujourd'hui ce qu'attendent les Français.
Vous avez dit tout à l'heure que les consensus étaient souhaitables en matière de sécurité, de retraite et de déficit. Mais une démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une majorité, il y a une opposition, il y a des gens qui se présentent devant les électeurs, oui, qui ne peuvent pas séduire 100% des électeurs. Donc, fatalement, ils ont contre des gens. C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu vain de penser, de laisser croire, jusqu'à quel point êtes-vous convaincu que on peut rassembler des gens sur des thèmes qui divisent à ce point, c'est pas possible. Aucune démocratie ne se gère comme ça.
Prenons la grande réforme de la santé faite par Barack Obama. Elle donne quand même l'exemple, à un moment donné, d'un cheminement qui permet à un grand nombre d'Américains de se retrouver, même si ça s'est fait dans la douleur.
Dans un climat très conflictuel.
Même si ça s'est fait dans le conflit. Mais enfin, cette réforme, c'est une réforme historique pour les États-Unis quand on sait d'où ils viennent et quand on sait que 35 millions d'Américains vont pouvoir enfin accéder à une protection en matière de santé. Donc je crois qu'il y a des leçons à tirer. Il faut rester humble en politique. Je n'ai pas la prétention d'être capable de tout faire, mais je pense que nous pouvons faire mieux qu'aujourd'hui. Et en tout état de cause, l'idée de cliver en permanence et d'appuyer là où ça fait mal, au sein de la politique française, pour rassembler les uns et éloigner les autres, ne me paraît pas la réponse.
Alors, un dossier qui intéresse beaucoup les Français, qui est concret, c'est la réforme. Oui, mais la réforme des retraites. Oui, hein, la concertation avec les syndicats sous la houlette d'Éric Woerth, au ministre du Travail, a commencé le 12 avril. Est-ce que vous avez réfléchi à des pistes pour tenter de sauver notre système de retraite? Est-ce qu'il faut, comme on le dit, allonger ou pas le nombre d'années travaillées? Est-ce qu'il y a d'autres façons de trouver une solution à ce dossier?
Aujourd'hui, il y a une variable qui fait consensus dans notre pays, qui est la durée des cotisations, le nombre d'années de cotisation. On voit bien que sur l'allongement de l'âge légal de la retraite, retarder l'âge légal de la retraite, il y a des positions qui sont extraordinairement opposées entre les partenaires sociaux, entre la droite et la gauche. Moi, j'avais été très, très agréablement surpris par la première position prise par Martine Aubry. Le fait d'accepter de mettre sur la table l'ensemble des possibilités, le fait d'être prêt à y réfléchir, me paraissait un bon signe. Puis on voit que la logique de parti a repris le dessus, malheureusement. Je crois qu'il faut avoir une véritable mise à plat dans ce domaine. Nous serons aidés par le rapport du Conseil d'orientation des retraites qui va définir les différentes options. Mais il faut aussi que nous soyons incités par les difficultés qui sont devant nous si nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord pour avancer. Ce que je vois, c'est la difficulté, c'est pour ça que je ne serai pas du tout donneur de leçons dans ce domaine et dans aucun autre, puisque nous en sommes à notre quatrième réforme des retraites et que la dernière réforme, celle des régimes spéciaux, semble-t-il, aura coûté le double de ce que nous aurions eu si nous n'avons rien fait. Donc réformons, mais faisons en sorte que cela règle les problèmes. Et je pense qu'il y a effectivement encore beaucoup de pain sur la planche.
Alors, l'âge légal, vous y toucheriez, vous, si vous étiez en responsable.
Il faut poser la question. Il faut voir.
Et poser la question, ça veut dire qu'on ne peut pas le garder à 60 ans, c'est ça que vous voulez dire.
Dans la pratique, on peut régler le problème de deux façons. Soit en augmentant le nombre d'années de cotisation, on évite de s'attaquer au point dur de l'âge légal, soit de s'attaquer au l'âge légal, qui permet d'avoir d'ailleurs tout de suite des réponses plus fortes, nous permettant de faire face aux problèmes financiers.
Mais l'âge légal, justement, qui fait polémique, pourquoi on ne s'en passerait pas, finalement, et ne travailler que sur les annuités?
Mais c'est sans doute ce qui permettra d'être le plus constructif, le plus rapidement. Puisqu'il y a un tabou qui pèse sur l'âge légal, on peut contourner la question, effectivement, en privilégiant la piste de la durée ou le nombre d'annuités nécessaires avant d'aller à l'âge de la retraite. Ceci dit, on voit bien qu'avant de poser cette question du nombre d'annuités, il y a le problème des seniors, de ceux qui s'arrêtent bien avant les 60 ans et à qui il faut trouver une solution. Et les syndicats ont raison de mettre ces questions sur la table. Il y a le problème de la pénibilité. Toutes les situations ne sont pas comparables. Il y a la différence entre le secteur public et le secteur privé. Donc il y a beaucoup de questions. Donc je pense que nous aurons encore de longs mois de négociations et de difficultés. Il faut faire en sorte de rapprocher, tout en prenant en compte les caractéristiques de chacun des systèmes. Mais on voit qu'on part de loin, parce que la retraite, c'est une compensation souvent à une rémunération inférieure dans le domaine public. Donc, toucher à une variable implique d'apporter des garanties dans d'autres domaines. Donc, c'est une négociation globale, une négociation complexe. Je ne suis pas sûr qu'en voulant faire de cette réforme la mère des batailles, nous ne soyons pas en train de nous mettre la tête sur le bio, parce que on voit bien que politiquement, c'est une réforme qui aura des conséquences très importantes. Je pense qu'il faut mettre en avant l'intérêt des Français à apporter, pour les Français, une garantie qui concernera tous nos concitoyens.
Quel est le sens de la remarque « on en fait la mère de toutes les batailles », c'est-à-dire « il faut faire la réforme ». Qu'est-ce que vous voulez dire quelle est l'erreur d'approche?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a trois grands enjeux qui doivent être traités en même temps. Dieu sait si j'ai critiqué les réformes tous azimuts, c'est-à-dire toutes ces mesures très disparates, personne ne comprenant exactement de quoi il s'agissait. Première réforme, celle des retraites, et d'une manière générale, la garantie de protection sociale. Les Français sont inquiets pour l'avenir de leur santé, le problème de la dépendance, donc ça touche à d'autres sujets. C'est une première question.
On y va, ça, ouais.
Deuxième sujet, qui me paraît devoir être traité avec urgence dans les prochains mois, c'est celui de la compétitivité de notre économie. Nous ne pouvons pas aujourd'hui laisser les choses filer comme cela, à un moment où la reprise est très forte dans les pays émergents, une croissance de 8-9%, et nous voyons que l'Europe, la France, va stagner autour de 1%, c'est-à-dire que nous ne créerons pas d'emplois et donc trop peu de richesses.
Quand on pense, c'est pas une bonne idée ?
Le grand emprunt à 35 milliards dans un pays qui connaît un déficit public de 150 milliards, ça alourdit la dette. Ce qu'on peut espérer, c'est que les dépenses d'avenir permettront de faire face. Je pense qu'il aurait été plus raisonnable de découper cet emprunt sur plusieurs années pour permettre, par exemple, la création d'une dotation innovation qui aurait été sans doute plus facile à digérer par notre économie que ces 35 milliards avec le risque que l'on a de se tromper. L'État a montré qu'il pouvait souvent se tromper en ce qui concerne les grands plans, le plan calcul, on l'a tous en mémoire par exemple.
Le procès en appel dans le dossier Clearstream va vous gêner dans votre démarche politique, Dominique de Villepin ?
Cette affaire ne m'a rien gêné, ne m'a en rien gêné jusqu'à maintenant. Je ne vois pas pourquoi elle le ferait. Nos compatriotes ont bien compris que cette affaire avait été très largement instrumentalisée. Je l'ai dit, je l'ai regretté. Cette affaire n'avait pas vocation à devenir une affaire politique. Elle n'aurait jamais pris les proportions qu'elle a prises.
Psychologiquement, si aujourd'hui, elle vous embarrasse dans votre démarche ?
Non. Les choses ont été si violentes et en même temps si claires. Je vois avec bonheur aujourd'hui, pour les intéressés, que M. Jean-Claude Marin est nommé officier de la Légion d'honneur. Aujourd'hui même, jour de Pâques, M. Patrick Houard, conseiller judiciaire à l'Élysée. Voilà, pour moi, la messe est dite.
C'est-à-dire, vous voulez suggérer qu'on les remercie pour les services qu'ils ont rendus, ça ?
Mais je ne suggère rien. Je dis tout simplement que... Bonne Pâques, joyeuse Pâques.
L'interphone, on a le fin mot de l'histoire. Donc sur l'interphone, il serait écrit Club Villepin.
Voilà.
Et le code est 2012 attribué par la copropriété sous notre avis, est-il écrit par Brigitte Girardin.
Voilà. Ben,
sous notre avis.
Comme quoi, il faut du temps pour que la vérité éclate.
Ah, sans notre avis, pardon.
Sans notre avis.
Sans notre avis. 2012, sans notre avis.
Oui, voilà. Parce qu'ils pensent que on est au moins publicité. On est au moins publicité par l'immeuble.
Voilà. Le copropriétaire a des idées derrière la tête. C'était le grand jury de Dominique de Villepin. On se retrouve dimanche prochain. Merci. Bonsoir.
RTL à 19h27, tout de suite, RTL en direct de l'équipe avec Jérôme Ménagou. Bonne soirée à tous.